Allen Menschen bringt er nur Böses.
Allen Menschen bringt er nur Böses.
C'est l'histoire d'une sœur bénédictine, d'une femme, d'une artiste intrépide et fragile, surgie il y a 1000 ans en Allemagne et qui est devenue une légende vivante. Elle s'appelle Hildegard de Bingen, l'incarnation du génie féminin, détentrice d'une œuvre artistique et scientifique qui dépasse largement le cadre religieux. Grande traversée, Hildegard de Bingen, à écouter sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
En partenariat avec le journal La Croix.
Et tout de suite, vous avez rendez-vous avec le feuilleton. Très belle soirée à tous.
France Culture, il est 21h, l'heure d'ouvrir une fenêtre sur l'imaginaire. Une heure pour s'évader grâce au feuilleton, s'émerveiller avec l'instant poésie et plonger dans lecture du soir.
Les larmes ont la forme d'une barque rame. Extrait de Lumière d'été puis vient la nuit de Jon Kalman Stefansson. Traduction Éric Bourri. Lu par Laurent Stocker.
Ici, au village, vit un homme qui se fiche pas mal du passage du temps et des évolutions. Il s'appelle Jonas. C'est lui qui a peint la tôle ondulée qui recouvre la maison en bois de l'astronome. Jonas est capable de transformer le monde grâce à ses pinceaux. Il a changé une maison en ciel noir de nuit. Jonas est maigrelé, pour ne pas dire étique. De taille à peine moyenne, il est fragile. Ne foulez pas trop fort la terre sous vos pieds en l'approchant, vous risqueriez de le briser. Il a grandi si discrètement et si lentement que pendant des années, nous avons presque oublié son existence. Il ne prenait jamais la parole sans y être invité, ne répondait que par monosyllabes et d'une voix aussi fine qu'une fibre de laine, ténue, bien qu'assez tôt teintée d'un soupçon de ténèbres, et qui se cassait sans prévenir. Il travaillait mal à l'école. Les instituteurs l'interrogeaient rarement devant les autres, et jamais ils ne lui demandaient de venir au tableau. Il peinait à trouver le sommeil avant les examens. Deux fois, il a vomi sur la table devant le correcteur, et une fois, il s'est évanoui. À l'école, il ne s'est fait ni ami ni ennemi. Les autres ne se moquaient pratiquement jamais de lui, peut-être parce qu'il était le fils de Hannes, colosse et policier du village, mais plus encore parce qu'il était tellement réservé qu'en sa présence, ses camarades se refermaient sur eux-mêmes. Le temps passait. Jonas regardait les autres se chamailler, c'était la fin des années 70. Il observait ses mains, si fines qu'elles en étaient translucides. Il a quitté l'école à l'âge de 14 ans. Les autres élèves se sont mis à grandir à toute vitesse. Jonas restait au point mort. Les filles avaient brusquement de la poitrine. Une courbe douce se dessinait autour de leur taille. Le désir bouillonnait chez les garçons qui formaient des bandes de jeunes taureaux beuglants et déchaînés. Ils frappaient les murs à coups de poing, hurlaient, la tête tendue vers le ciel. Et dès qu'une fille tout sautait, ça leur donnait une érection. Jonas ne semblait percevoir en lui aucun de ces bouleversements. Il s'est contenté de raser d'encore un peu plus près les murs, puis a cessé d'aller en cours et s'est enfermé à double tour dans sa chambre. Hannes a été forcé de défoncer la porte. Il a tenté de le soudoyer, l'a menacé, l'a insulté, l'a supplié, mais jamais son fils n'est retourné à l'école. « Ce gamin est un attardé », disaient certains. Hannes en a parlé à son ami qui était contremaître à la laiterie et à 9h précises, un lundi de février, Jonas s'est présenté au travail. « Tu n'as qu'à prendre le balai », lui a dit le contremaître. La tâche du jeune homme était aussi simple que ça. Malgré son insupportable timidité, Jonas ne rougissait jamais. Il pâlissait encore plus quand il rentrait dans sa coquille et nous étions morts de peur qu'il se dissolve dans la lumière pour y disparaître entièrement. Mais 2 mois après qu'il avait commencé à travailler à la laiterie, nous l'avons vu rougir pour la première fois, et ce, sans aucune raison manifeste. Plusieurs filles et même quelques femmes ont baissé les yeux en se demandant ce qui lui arrivait. Le lendemain, le contremaître a décidé de confier à Jonas une nouvelle tâche. Il fallait repeindre un mur, certes dissimulé derrière une pile de palettes, et qu'on n'apercevait que très rarement. Mais cet homme perspicace savait qu'il faut également prendre soin des choses invisibles. Il était presque midi quand le contremaître se risqua enfin à aller voir où en était Jonas. Il trouva le gamin parfaitement immobile, regardant droit devant lui, entouré d'une multitude de pots de peinture. Le contremaître scruta longuement le mur, puis s'approcha. Jonas avait le rouge aux joues, ses yeux pétillaient. Après cela, plus personne n'a jamais osé entasser de palettes devant ce mur. Le contremaître a fait installer deux tables. Les employés y prennent leur pause, ou y vont lorsqu'ils ont besoin de réfléchir, de se calmer, de reprendre leurs esprits. Ils boivent leur café en contemplant cette fresque. Un soleil rougeoyant couvre la moitié du mur. Une soixantaine d'oiseaux des tourbières arrivent à tire-d'aile, sortis tout droit de l'astre du jour. Leurs contours sont certes un peu malhabiles, mais ils semblent tellement vivants que lorsque règne un absolu silence, on entend leur battement d'ailes à l'intérieur du mur. Hannes était menuisier de profession, mais son uniforme de policier était sa vraie vie et sa vraie passion. « Ce n'est pas moi », pensait-il tous les lundis matins quand il mettait sa ceinture de travail, quand il cherchait sa scie, quand il maudissait notre obéissance aux lois et se prenait à rêver d'une époque plus troublée et riche en crimes qui lui permettrait de mettre au rebut sa ceinture de menuisier pour revêtir chaque jour son uniforme. Plus homme que la plupart d'entre nous, il mesurait 1m93, large d'épaule, les bras puissants. Il n'avait pas un gramme de graisse et lorsqu'il se déplaçait, il ressemblait à un grand fauve. Hannes séduisait les femmes grâce à son regard puissant qui balayait les alentours tel un phare l'océan. Elle se disait « Je quitterai mari et enfant pour une nuit avec lui ». À notre grande surprise, il a épousé une femme nommée Bora, tellement menue, le visage radieux, le corps aussi fin que les étamines d'une fleur, disaient les anciens quand ils parlaient d'elle. Puis un jour, nous avons vu la lumière qui illuminait son visage s'affadir. Le vieux médecin, celui qui connaissait quelques bribes de latin, n'a rien pu faire contre le cancer des intestins, cette fleur maléfique. Elle déclinait rapidement, elle pâlissait, elle maigrissait. Hannes l'a soutenue de toutes ses forces, mais l'homme n'est rien face à la mort. La lumière du monde s'est éteinte. Hannes est devenu veuf, son fils de 3 ans orphelin. Quant à nous, nous avons perdu la chose la plus belle et la plus élégante que nos yeux aient pu voir. Il y aurait largement de la place pour un peu plus de justice en ce monde. Ils n'étaient plus que deux. L'enfant ressemblait tant à sa mère que Hannes n'osait même pas le toucher. « Mon petit, » disait-il, les mains plongées dans les poches. Les années ont passé. Il vivait dans une vieille maison en bois située juste en surplomb de notre jolie plage en arc de cercle. Parfois, en général le jeudi soir, disons toutes les 6 ou 7 semaines, Hannes s'installait dans le fauteuil du maître de maison. Il appelait son fils en lui disant « Apporte-moi donc ce cher Algrimur !» Jonas savait alors que s'annonçaient 4 ou 5 jours et autant de nuits d'excès alcooliques. Combien de fois l'enfant avait-il observé ses mains se tendre vers les œuvres poétiques de Algrimur Pétursson, rangées dans la bibliothèque sombre et massive. La voix puissante de Hannes retentissait. Jonas tendait les bras vers les rayonnages. Ses souvenirs regorgent d'instantané de ses propres mains. Un soir, Hannes dit à son fils « Vois-tu, rien ne me ferait plus plaisir. Ce serait un immense bonheur de te voir endosser mon uniforme quand je ne serai plus là. lorsque tu seras devenu un homme. Ainsi, je n'aurai pas vécu en vain. Cela apaiserait mes souffrances, quel que soit l'endroit où le Seigneur qui règne sur ses anges et le ciel décideront de m'envoyer pour me châtier. Ce serait mon bonheur, a répété Hannes. Il était presque minuit. Jonas s'est brossé les dents, comme toujours avec une grande application. Il a fait un tour aux toilettes, s'est lavé, puis est allé dans le salon pour souhaiter bonne nuit à son père. Hannes a levé les yeux et tendu sa tête, son imposante tête. « Bonne nuit, mon fils. À jamais bonne nuit. Ne laisse pas les ombres t'enfermer. » « C'est promis, mon cher papa. » Jonas est retourné dans sa chambre et, vêtu de son pyjama rouge, s'est endormi, percé par la voix de son père. Le lendemain matin, il s'est réveillé tôt. Il faisait encore assez sombre dans la chambre. Il a regardé son réveil, 7 heures. Il lui en restait 2 avant de partir au travail. Il a tendu le bras vers sa lampe de chevet pour l'allumer. C'est alors qu'il a vu que la porte avait été fermée pendant la nuit. Une grande enveloppe était collée juste sous la poignée. Il s'est levé pour aller la chercher. « À mon fils !» Puis s'est rassis au bord du lit, le cœur battant, et a ouvert la lettre. Mon cher fils, s'il te plaît, ne va pas dans le salon. Si tu as quelque respect pour moi, si tu en as eu dans le passé, tu obéiras à ce qui constitue ma dernière requête. J'ai tout essayé, mais voilà, j'abandonne le combat contre les ombres qui m'assaillent. Pour moi, la beauté du monde n'est plus. Toute fière forêt s'est flétrie, toute cognée se brise. Les batailles ont trop duré. Toute maison s'effrite. Tout désir s'effondre. J'entends les trilles du courlis. S'éveille la calomnie, sombre le jour. Toute créature tressaille. Et mon esprit trépasse. Je n'ai pas été assez bon avec toi, pardonne-moi. Je n'ai jamais voulu que ton bien. Ne va pas dans le salon. Je me suis pendu cette nuit. Il ne faut pas que tu me vois comme ça. C'est un spectacle épouvantable de voir un pendu. Et c'est pire encore lorsque c'est ton père. Tu dors à poing fermé dans ta chambre, la bouche entrouverte. J'ai passé un long moment à te regarder et à te faire mes adieux. Tu es un beau garçon, même si j'aurais préféré attendre que tu sois un homme. Mais tu es mon fils. Je pars et tu es la seule trace que je laisse en ce monde. Sois fort, ne ploie pas jamais. Quand les larmes t'envahiront, elles ne manqueront pas de le faire. Il faut que tu sortes de la maison et que tu cours à perdre haleine. Rien n'apaise autant l'esprit et les nerfs. N'oublie pas que tu peux distancer les larmes, mais qu'il est impossible de semer les ombres. Allons, il faut que tu lises cette dernière lettre jusqu'à la fin, puis habille-toi correctement, ne mets pas cette affreuse chemise orange. Ensuite, tu iras directement trouver Gudmundur, notre mère, et Solrun. J'ai laissé dans l'entrée une lettre qui leur est destinée. Je veux que tu la leur remettes. Dis-leur d'abord ce qui est arrivé, sois concis et tâche d'éviter toute sensiblerie. Cela mettrait à mal ta dignité et ta maîtrise de toi. Je vais maintenant aller retrouver ta mère. Je ne connais rien de meilleur qu'elle. Elle méritait bien mieux que la vie qu'elle a eue. Mais nul n'a prise sur son destin. Je suppose que je devrais tout d'abord faire pénitence pour avoir renoncé à la vie. J'essaierai d'accueillir cette condamnation avec dignité. J'ignore quelles seront sa nature et sa durée, 1000 ans ou une journée. mais j'ai pris ma décision. Et de toute manière, j'aurai la réponse d'ici quelques instants. Sois fort. Sois plus grand que moi. Ton père, Anes Jonasson. Jonas a lentement lu la lettre. Il s'est accroché à chaque mot, comme celui qui cherche à tâtons des points de repère dans les ténèbres ou dans un brouillard à couper au couteau. Puis il s'est levé et a ouvert la porte. Sa chambre se trouve au fond de la maison. Le couloir s'offrait à sa vue. Un tunnel long d'au moins 1000 kilomètres. Le salon et la bibliothèque étaient si lointains qu'il fallait la moitié d'une vie pour l'atteindre. Une heure plus tard, il est allé trouver Gudmundur et Solrun. Il avait vu son père, pendu à la corde, le tabouret renversé sur le côté, et était resté là, dans son pyjama rouge, un filet d'urine tiède coulant le long de ses jambes grêles et imbibant l'épaisse moquette chinée beige. Hannes n'aurait pas été content, ni de le voir uriner ainsi, ni de la couleur du pyjama. La dépouille de Anes Jonasson, menuisier mais avant tout policier, s'est enfoncée dans le sol gelé, le corps débordant encore d'alcool et de bribes de poèmes de Hallgrímur Pétursson. Les pelletées de terre frappaient bruyamment le couvercle du cercueil. Les vieilles tantes sanglotaient, deux hommes pleuraient, ainsi que 6 jeunes femmes. Les larmes ont la forme d'une barque à rames. La douleur et la peine sont tapis sous le banc de nage. Celui qui pleure à un enterrement pleure également sa propre mort et en même temps celle du monde, parce qu'à la fin tout meurt et il ne reste rien. Le destin emprunte parfois d'étranges détours, c'est-à-dire, pour autant qu'on croit à son existence, qu'on écarte l'hypothèse selon laquelle la vie serait entièrement le fait du hasard. Hannes cède face aux ténèbres. Les ombres le rattrapent. Il se pend, laissant derrière lui une lettre adressée à son fils et une autre destinée à Gudmundur, le maire, et à Solrun, sa femme, directrice de l'école, dans laquelle il demande à ses amis de veiller à ce que son fils Jonas obtienne un poste de policier à plein temps. C'est selon moi la seule manière de faire de lui un homme. Il sera rude école, mais c'est la vie. Et il a la trempe nécessaire pour se frotter à ses difficultés. Sous la douceur de l'agneau se cachent une force et une énergie surprenantes. Solrun avait opposé à cette requête un catégorique « non, c'est hors de question ». Le maire était d'accord avec elle, bien que moins péremptoire. Mais peu de choses ont plus de poids que les dernières volontés d'un ami défunt. Ce qui avait modifié la donne, c'était l'enthousiasme de Jonas lui-même pour accepter le poste, peut-être parce qu'il était assommé, hébété après le suicide de son père, qu'il se reprochait ce qui s'était passé, ce qui était évidemment absurde. Mais l'esprit humain, tout autant que le destin, emprunte parfois des voies surprenantes. C'est ainsi que quelques semaines plus tard, grâce à son étonnante détermination, Jonas a revêtu l'uniforme noir de son père, pâle et décharné, comme perdu dans une nuit insondable. Jonas s'est acquitté de son travail entièrement seul toute la première année. Il arrive au travail à 8 heures précises, 5 jours par semaine. Il allume sa lampe de bureau, se plonge dans des ouvrages de sciences naturelles, relit le manuscrit qu'il rédige sur les oiseaux des tourbières. Parfois, le téléphone sonne. Jonas sursaute. Un paysan se plaint qu'un des moutons de son voisin est entré dans son champ. Des gamins ont défiguré un mur avec des graffitis. On a cassé une vitre, cabossé une voiture. Un cheval a déféqué au milieu de la rue. Des événements se produisent. La plupart d'entre nous tâchions de lui rendre les journées supportables, mais nous déclinions toute responsabilité concernant les nuits et il en sera toujours ainsi. La nuit est irresponsable. Chaque samedi soir, il y a un bal à la salle des fêtes. Ces bals constituent le grand événement. Le conseil d'administration de la salle des fêtes affiche le programme de l'hiver début septembre. Nous entourons les dates en rouge, prévenons les babysitters longtemps à l'avance, allons acheter des provisions d'alcool quelques jours avant, repassons nos vêtements le jeudi, brûlons d'impatience le vendredi et passons le samedi à attendre. Et assis dans sa voiture devant la salle comme le veut la tradition, Jonas a des sueurs froides. Son angoisse a grandi au fil de la semaine comme un bourdonnement de plus en plus puissant dans ses oreilles. Il écoute les cris et les hurlements qui transforment le village en asile de fous. Une nuit d'été, trois sales types l'ont sorti de son véhicule. Le groupe Solin Ancients Mints était invité pour jouer pendant le bal. La sueur avait ruisselé. Ces trois gars l'ont attaché au filet des buts de handball de l'école. « Tu es une mouche », ont-ils calmement expliqué en lui montrant deux femmes, ajoutant aussitôt « Et elles, ce sont les araignées ». C'était une nuit affreuse et pourtant si claire. Les nuits d'été libèrent toutes sortes de maléfices. Les araignées avaient taillé en pièces l'uniforme de Jonas à l'aide d'un canif acéré. À ton avis, il en a une grosse comment, avait lancé un des trois hommes en s'avançant pour mieux profiter du spectacle. Dis plutôt une petite comment, avait rétorqué un de ses acolytes en ricanant. Une des femmes avait prudemment glissé le couteau sous l'élastique de son slip. Jonas n'avait pas dit un mot. Certaines espèces du règne animal ne se débattent pas, c'est là leur système de défense. Ce n'est pas à toi qu'ils ont voulu s'en prendre, mais à ton uniforme, lui a dit Solrun en le détachant. Donne-moi les noms de ceux qui t'ont fait ça. Je veillerai à ce que la terre se consume sous leurs pieds. Jonas s'était contenté de secouer la tête sans rien dire. Du reste, il était inutile qu'il dénonce ses tortionnaires, puisqu'une trentenaire originaire du village avait tout raconté avant même que se lève un nouveau jour après cette nuit claire. Elle avait donné tous les noms, y compris le sien, rongée par les remords dès qu'elle avait dessoulé. Elle avait en outre envoyé au policier une lettre où elle disait avoir honte et regretter terriblement. Mais ce qui est fait ne saurait être défait. Certains événements modifient votre paysage intérieur si profondément que les mots n'ont pour ainsi dire plus aucun pouvoir. Assis dans le garage, Jonas lisait des ouvrages de zoologie, dessinait des oiseaux, sursautait chaque fois que le téléphone sonnait et fermait parfois les yeux en espérant ne jamais les rouvrir. Le soleil s'est hissé à grand-peine au-dessus des montagnes à l'est du village pour nous offrir un nouveau jour. L'astronome a éteint son ordinateur, s'est préparé une bouillie de flocons d'avoine et est allé se coucher. Le vent soufflait du nord, il neigeait sur les sommets. Nous avons enfilé nos chaussettes de laine en pensant à des viennoiseries tièdes, à nos angoisses et à une cafetière. Thorgrimur, l'ancien contremaître de l'entrepôt, est parti de chez lui pour aller chez le maire et son épouse. 10 minutes de marche pour un homme qui avance à grandes enjambées. Il a enfilé son uniforme de policier. Il est entré dans le garage. Sa silhouette occupait toute l'embrasure de la porte. Assis à son bureau, Jonas hésitait entre bonheur et peur. Ils ont échangé un regard, mais n'ont pas eu le temps de se saluer. Solrun est venu leur apporter une tarte, suivie par son époux, qui tenait 4 assiettes et un couteau avec lequel il a coupé une part pour Thorgrimur, en disant « Si vous êtes maintenant 2, c'est grâce à Solrun. » « Eh bien, déclare prudemment Thorgrimur, nous voilà maintenant collègues. Désormais, nous serons comme un seul homme. » Ils se sont alors levés pour se serrer la main. Un troll et un elfe. La voiture de police a démarré. Thorgrimur a pris le volant. Jonas tremblait sur le siège du passager, peut-être parce qu'il avait bu trop de café, peut-être de bonheur. « Le temps passe et nous traverse. Voilà pourquoi nous vieillissons. Dans 100 ans, nous reposerons au creux de la terre. Il ne restera plus que des ossements et peut-être une vis en titane que le dentiste aura mise dans une dent de notre mâchoire supérieure pour que le plombage reste en place. L'être humain n'a pas la résistance de ce métal et son histoire pourrait se résumer à ce qu'abrite son cœur, ce que contiennent ses os et son sang et des bras qui s'agitent par un soir d'octobre. Jonas est sans doute bien loin de ces considérations. C'est peut-être pour cette raison qu'il semble que l'âge l'épargne. Sa peau est lisse et douce. C'est si beau de le voir avec Thorgrimur. Quelques mois après s'être retrouvé, tremblant, sur le siège de la voiture de police, Jonas a vendu sa maison, la maison de son père, pour emménager chez Thorgrimur, avec qui il se sent en parfaite sécurité. Au printemps et en été, il quitte le village aux premières heures du jour pour arpenter les collines, les landes et les tourbières où, armé de ses jumelles, d'un carnet et d'un crayon, il observe les oiseaux. Il éprouve une affection particulière pour la bécassine et la barge à queue noire, mais n'aime pas beaucoup les goélands qui planent en surplomb du territoire des oiseaux des tourbières et leurs plaintes qui parlent de mort. Jonas est calme. Comme s'il échappait à tous les fléaux qui nous tracassent. La vitesse, l'agitation, le fait qu'il nous faut une plus grande télé, un nouveau portable. Il lui suffit de penser à la courbe de l'aile d'un oiseau pour être apaisé. Que devons-nous faire pour parvenir à une telle sérénité? Certains villageois considèrent suspect de voir deux hommes vivre ensemble, sans doute parce que nous avons tendance à tout réduire à la sexualité. Vous connaissez notre époque. Pas un magazine ne sort sans qu'il y soit question de sexe ou d'infidélité, sans qu'il publie des sondages sur les pratiques sexuelles, des enquêtes sur la taille des quéquettes ou les jouets érotiques. Nous avons lu quelque part que les orgies et la sexualité débridée étaient le signe de la décadence de l'Empire romain. Mais l'être humain est-il autre chose que de la chair, des os et une vie sans titane ? Le temps passe, nous vivons, puis nous mourons. Mais qu'est-ce que la vie ? La vie, c'est quand Jonas pense à la courbe de l'aile d'un oiseau. C'est quand il s'endort, bercé par la respiration profonde de Thorgrimur. Oui, c'est tout à fait ça, mais pas uniquement. Et quelle est la largeur de l'espace qui sépare cette vie de la mort ? D'ailleurs, cet espace existe-t-il? Et si oui, quel nom lui donner? Doit-on le mesurer en kilomètres ou en pensées? Certains peuvent-ils se glisser dans cet interstice où ils avanceraient et reculeraient à leur guise?
C'était « Les larmes ont la forme d'une barque à rames », extrait de « Lumière d'été puis vient la nuit » de Jon Kalman Stefansson. Traduction Éric Bourri. Extrait choisi par Gabriel Dufay. Lu par Laurent Stocker. Conseillère littéraire Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage, mixage, Antoine Viossa, Titouan OX. Assistante à la réalisation, Eleonora Farad et Émilie Jocquiel. Réalisation, Laurence Courtois. Lumière d'été puis vient la nuit est publiée aux éditions Grasset. Thank you.
vous êtes bien sur France Culture.
À 50 mètres de la surface, des hommes tournent un fil, munis de scaphandres autonomes à air comprimé.
Des années 50 aux années 90, le commandant Cousteau a été l'un des grands porte-parole de la préoccupation écologiste. Et pourtant, aujourd'hui, les jeunes générations, pour lesquelles il disait se battre, ne savent plus très bien qui il est.
Mathieu Garrigou-Lagrange.
Mais qu'a représenté Jacques-Yves Cousteau ? Nous réinterrogeons son époque en regard avec la nôtre.
Nouvelle science, l'archéologie sous-marine est née.
Salle des archives, chaque dimanche à 16h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Alors que l'on a largement dépassé le millier de jours de combat, l'Ukraine entre dans son troisième hiver de guerre.
Nicolas Herbeau.
Température glaciale, coupure de courant, bombardement quotidien. Comment vit aujourd'hui la population ukrainienne alors que la Russie poursuit ses offensives ? Le président Zelensky, lui, est sur tous les fronts diplomatiques. Peut-on envisager un cessez-le-feu ou la fin d'une guerre ? Nous posons ces questions ce samedi matin.
Les matins du samedi, ce samedi à 7h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Vous écoutez France Culture. Du lundi au vendredi, tout le mois de décembre, l'instant poésie est consacré à 20 poèmes de l'enfance présentés par Mathilde Wagman.
Le chat, de Charles Baudelaire.
Encore des animaux à notre programme. En l'espèce, l'un de ceux les plus appréciés des écrivains, le chat. Le chat, de Charles Baudelaire, extrait des Fleurs du Mal, paru en 1857. Morgane Néraud nous le lit.
Dans ma cervelle se promène, ainsi qu'en son appartement, un beau chat fort, doux et charmant. Quand il miaule, on l'entend à peine, tant son timbre est tendre et discret. Mais que sa voix s'apaise ou gronde, elle est toujours riche et profonde. C'est là son charme et son secret. Cette voix, qui perle et qui filtre dans mon fond le plus ténébreux, me remplit comme un verre nombreux et me réjouit comme un filtre. Elle endort les plus cruels maux et contient toutes les extases. Pour dire les plus longues phrases, elle n'a pas besoin de mots. Non, il n'est pas d'archer qui morde sur mon cœur parfait instrument et fasse plus royalement chanter sa plus vibrante corde que ta voix. Chat mystérieux, chat séraphique, chat étrange, en qui tout est, comme en un ange, aussi subtil qu'harmonieux. De sa fourrure blonde et brune, sort un parfum si doux qu'un soir, j'en fus embaumé pour la voir caresser une fois, rien qu'une. C'est l'esprit familier du lieu. Il juge, il préside, il inspire toutes choses dans son empire. Peut-être est-il fée ? Est-il Dieu ? Quand mes yeux, vers ce chat que j'aime, tirés comme par un aimant, se retournent docilement et que je regarde en moi-même, je vois avec étonnement le feu de ses prunelles pâles, claires fanaux vivantes opales, qui me contemple fixement.
Les Fleurs du Mal, c'est le recueil de Charles Baudelaire. Il y aura travaillé presque toute sa vie. Publié une première fois en 1857, Baudelaire avait 36 ans, l'ouvrage scandalise et lui vaut un procès qui se solde par l'interdiction de la publication de certains poèmes jugés immoraux. Dans les années qui suivent, il reparaît plusieurs fois, enrichi de nouveaux textes. Son influence sur les poètes est immense, sur Verlaine, Rimbaud, Mallarmé et bien d'autres. Mais revenons à notre félin. On trouve beaucoup de chats dans les Fleurs du Mal. Pas moins de 3 poèmes s'articulent autour de son évocation. Les 2 autres sont des sonnets. Le premier, intitulé « Le chat », lui aussi, « Viens, mon beau chat, sur mon cœur amoureux, retiens les griffes de ta patte ». Et le troisième, « Les chats », évoque les chats puissants et doux, orgueil de la maison, qui comme eux sont frileux et comme eux sédentaires. Celui qu'on a entendu est le plus long des 3 et d'une forme plus libre. Ce qui frappe d'emblée, c'est que le chat évoqué ici se promène dans l'esprit du poète.
Dans ma cervelle se promène, ainsi qu'en son appartement, un beau chat fort, doux et charmant.
Et c'est sur la métaphore de sa voix que le poème se poursuit, avec cette allusion au violon, un instrument que Baudelaire aimait citer, comme dans « Harmonie du soir », un autre poème des Fleurs du Mal, dans lequel il parlait du violon qui frémit comme un cœur qu'on afflige.
« Non, il n'est pas d'archer qui morde sur mon cœur parfait instrument, efface plus royalement chanter sa plus vibrante corde que ta voix, chat mystérieux, chat séraphique, chat étrange, en qui tout est, comme en un ange, aussi subtil qu'harmonieux. »
Chez Baudelaire, le chat est toujours comparé à la femme, toujours associé au plaisir, à la beauté, mais aussi à une forme de danger. Ici, il est capable d'envoûter, comme une fée ou comme un dieu. Et à la fin, on semble revenir au début, dans un drôle de mouvement circulaire. Dans ma cervelle se promène, ainsi qu'en son appartement, un beau chat fort doux et charmant, nous avait-on dit pour commencer. Et pour finir, c'est à nouveau en soi-même que le poète semble revenir.
Quand mes yeux, vers ce chat que j'aime, tirés comme par un aimant, se retournent docilement et que je regarde en moi-même, je vois avec étonnement le feu de ses prunelles pâles, claires fanaux vivantes opales, qui me contemple fixement.
C'était l'Instant Poésie, présenté par Mathilde Wagman, réalisé par Tidiane Tiang, à retrouver sur l'application Radio France, franceculture.fr et sur l'Instagram de France Culture, avec chaque soir une illustration originale. Vous écoutez France Culture, des textes portés par des grandes voix de comédiens et d'écrivains. Tout de suite, lecture du soir.
Entretien avec Jean-Paul Sartre, août-septembre 1974, de Simone de Beauvoir, lu par Samy Frey. Enregistré en public à l'occasion du Festival d'automne à Paris, du 24 septembre au 6 octobre 2001.
Suite, Simone de Beauvoir. Lisiez-vous Alain quand vous étiez en philo? Jean-Paul Sartre. Pas quand j'étais en Cagne, mais plus tard, oui, à l'école normale. Et tous les grands classiques, disons, Zola, Balzac, Stendhal, quand les avez-vous lus? Zola et Balzac ne m'intéressaient pas beaucoup. Je suis venu à Zola par la suite, mais Balzac, je n'ai jamais donné dedans. Je me faisais une bibliothèque de classiques suivant les occasions, Stendhal tout de suite. J'ai commencé à le lire en philo, puis j'en ai lu jusqu'à l'école normale. Ça a été un de mes auteurs préférés. C'est pour ça que j'ai été étonné quand je voyais que ça ne devait pas se lire entre 17 et 18 ans parce que ça défraîchissait les enfants. Ça leur donnait des idées sombres. Ça les dégoûtait de la vie. Voilà ce qu'on disait autour de moi. Je ne comprends pas encore d'ailleurs. Non, parce que c'était plutôt au contraire très gai. Oui, il y a des amours, de l'héroïsme, des aventures. Je ne comprends pas du tout l'espèce de résistance qu'a suscité Stendhal. Bon, alors, après. Alors, un auteur comme Stendhal, je l'ai lu avec les gens de mon âge et contre ceux qui étaient plus âgés, même les professeurs. La lecture, c'était une manière de vous approprier le monde culturel, en somme, en même temps qu'un plaisir, naturellement. C'est ça, un plaisir. Mais aussi, je m'appropriais le monde. Le monde. C'est-à-dire, essentiellement la planète. Et, comme j'avais des ambitions, je voulais vivre dans un tas de milieux, avec des tas de gens, dans un tas de pays, ça me donnait un avant-goût. J'ai beaucoup lu jusqu'en troisième année d'école normale. J'ai cessé de lire quand je préparais l'agrégation, quoique j'ai été collé la première fois. Vous aviez beaucoup travaillé, mais vous m'avez étonné quand je vous ai connu, parce que vous aviez lu des auteurs que généralement on ne lit pas. Vous aviez lu Baour-Lormian, Nepomucène Le Mercier. Vous aviez une culture très exhaustive. Oui, ça m'était conseillé par l'histoire et par la littérature. On prononçait leurs noms dans le cours du professeur d'histoire ou de français, et moi, j'allais les lire. Et quand vous étiez à Paris, comment est-ce que vous vous procuriez des livres? Misan m'en prêtait et j'en achetais. Et puis de temps en temps, comme je l'ai dit, les Cagneux d'Henri IV nous en prêtaient. Et que représentait pour vous la lecture à partir du moment où vous avez été agrégé? Je sais que pendant le service militaire, ça représentait surtout une distraction. Oui. Parce que vous vous ennuyiez beaucoup. Oui. Mais il y avait autre chose aussi. Ça a toujours été le contact avec le monde. Un roman, un livre d'histoire ou de géographie, ça me renseignait sur le monde. Telle chose se passait à tel endroit, où c'était passé il y a un siècle, où se passerait si j'allais dans tel pays. C'était des renseignements que je prenais sur le monde et qui me passionnaient. Je sais que vous avez lu beaucoup de livres étrangers à partir de l'agrégation, beaucoup de livres américains, Dos Passos par exemple. Oui, la littérature américaine m'a passionné. La littérature russe aussi. Les vieux livres russes, Dostoïevski, Tolstoï, je les lisais depuis longtemps, on me les avait conseillés au lycée. D'ailleurs, je n'aimais pas Tolstoï. En quoi j'ai changé? J'ai aimé Dostoïevski, bien sûr. Et quand vous avez été professeur au Havre, est-ce que vous lisiez beaucoup? Oui, je lisais. Et à partir du jour où vous avez commencé très sérieusement à écrire, est-ce qu'il vous restait quand même du temps pour lire et qu'est-ce que ça représentait pour vous? Je lisais beaucoup en chemin de fer. Le Havre-Paris, le Havre-Rouen. Et j'ai découvert à ce moment-là quelque chose de neuf. Je me suis intéressé aux romans policiers. Ah oui. Mais avant, c'était les romans d'aventure. Dans le train, il n'y avait rien à faire. On regardait les gens qui passaient et on lisait. On lisait quoi? Quelque chose de non culturel, dirais-je. En fait, je ne me rendais pas compte que les romans policiers me cultivaient. Nous prenions beaucoup le train, énormément. Alors je lisais des romans policiers. Et pourquoi aimiez-vous les romans policiers? J'ai certainement été attiré par l'importance qu'ils ont eue. C'est vers ce moment-là que la foule s'y est jetée. Oui, mais vous auriez pu les refuser. J'aurais pu. Mais il y avait tout de même ce vieux fond d'aventure qui m'amusait. Et est-ce qu'il n'y avait pas aussi le fait que la construction vous intéressait? Oui, la construction m'intéressait. C'était une construction dont j'ai souvent pensé qu'elle pouvait servir à des romans traitant des sujets plus sérieux, plus littéraires. C'est-à-dire la construction de l'énigme qui, à la fin, donne sa clé. Je pensais qu'en faisant quelque chose d'un peu caché, pas un crime, mais un événement quelconque d'une vie, des rapports entre des hommes ou entre des hommes et des femmes, ça pouvait donner un thème de roman. Ce fait petit à petit se dévoilerait, il serait l'objet d'hypothèses. Je pensais qu'il y avait là une possibilité de roman. Et puis j'ai abandonné par la suite ce procédé. Encore qu'il y ait dans le premier volume des Chemins de la Liberté des éléments qui faisaient assez roman policier. Le rapport de Boris avec Lola, par exemple. Et même dans La Nausée. Il y a une espèce de suspense. Parce que le héros se demande qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a. Oui. Non, je pense que le genre de nécessité qu'il y a dans un roman policier, bien fait, bien ficelé, c'était une chose qui vous plaisait. C'était une nécessité particulière, une nécessité qui s'exprimait la plupart du temps par des dialogues, parce que lorsqu'un détective découvre quelque chose dans le roman policier, il y a des interrogatoires. Non, c'est surtout le dialogue, dans lequel le fait apparaît ou réapparaît et provoque des troubles ou des attitudes émotives chez des gens. Donc, ça impliquait que le dialogue pouvait être pouvait avoir une valeur d'action, en quelque sorte. Oui, renseigner les gens et les faire agir. L'aventure était dans le dialogue, et c'est le dialogue en tant qu'aventure qui m'apparaissait important. Et puis, à part les romans policiers, quand vous étiez à Lan, quand vous êtes revenu à Paris, enfin pendant vos années de professeur d'avant-guerre, je lisais surtout la littérature américaine. C'est surtout là que j'ai connu Faulkner. Je me rappelle encore, c'est vous qui l'avez lu la première, et vous m'avez montré les nouvelles en me disant qu'il fallait les lire. Ah ! J'étais dans votre chambre, un après-midi, et vous aviez ce livre. Je vous ai demandé ce que c'était, et puis vous me l'avez dit, je connaissais déjà Dos Passos. Kafka, nous l'avons découvert ensemble, assez tard, en Bretagne, autant que je m'en souvienne. Oui, dans la NRF, quelqu'un parlait des grands auteurs Proust, Kafka et Joyce. Et Joyce, est-ce que nous le connaissions? Je ne me rappelle plus. Nous l'avons connu assez vite, oui. D'abord par oui dire, et puis ensuite nous l'avons lu. Tout le milieu, tout ce qui était proprement le monologue intérieur de Molly Bloom m'intéressait beaucoup. Et j'ai même fait une conférence sur Joyce au Havre. Il y avait une salle où les professeurs faisaient des conférences payées, c'était arrangé par la municipalité et par la bibliothèque, et j'ai fait des conférences sur les écrivains modernes aux bourgeois du Havre qui ne les connaissaient pas. Mais qui, par exemple ? Faulkner. Vous avez fait une conférence sur Faulkner ? Non. Non, mais j'en ai parlé dans une conférence. Et ils m'ont demandé qui c'était. Et sur qui avez-vous fait des conférences ? Il me semble que vous en avez fait une sur Gide, non ? Oui. Et j'en ai fait une sur Joyce. Et ces conférences ont précédé vos premiers articles critiques. Oui. Elles étaient moins développées que mes articles, mais ça allait dans le même sens. Aviez-vous déjà l'idée qu'une technique, c'est une métaphysique ? Oui, j'ai eu cette idée assez tôt. Bon, alors, vous lisiez en somme à la fois pour vous complaire, pour vous tenir au courant, pour savoir ce qui paraissait dans le monde. Je lisais beaucoup, j'étais très intéressé. La lecture était mon divertissement le plus important. Et même, j'en étais maniaque. Et est-ce que parmi toutes ces lectures, il y en a eu qui vous ont influencé dans votre propre travail ? Ah, bien évidemment. Dos Passos m'a énormément influencé. Il n'y aurait pas eu le sursis sans Dos Passos. Kafka m'a influencé aussi. Je ne saurais pas dire exactement comment, mais il m'a beaucoup influencé. Et est-ce que vous aviez lu Kafka quand vous avez écrit La Nausée ? Non. Quand j'écrivais La Nausée, je ne connaissais pas encore Kafka. Et ensuite, ça a été la guerre. Et je pense que pendant la drôle de guerre, vous avez lu beaucoup. Oui, vous m'avez envoyé des tas de livres. Je les recevais à l'école où nous nous tenions dans la journée. Nous autres, les météorologues, pour n'y rien faire que soi-disant corriger ou étudier les sondages que l'on avait fait le matin ou que l'on avait fait les jours derniers, ça ne servait à personne puisque personne ne s'intéressait aux sondages. Vous ne vous rappelez sans doute pas ce que vous avez lu. Ça devait être au fur et à mesure que les livres paraissaient. Oui. Et est-ce que vous ne lisiez que des romans ? Non, naturellement, vous lisiez de la philo ou de l'histoire. Déjà beaucoup d'histoire. Oui, mais de l'histoire comme on en faisait à l'époque, de l'histoire anecdotique et biographique. J'ai lu, par exemple, différents ouvrages sur l'affaire Dreyfus. Je lisais pas mal d'histoire. D'ailleurs, ça allait avec la conception philosophique qu'il fallait s'intéresser à l'histoire, qu'elle faisait partie de la philosophie. Vous lisiez beaucoup de biographies, oui. Nous avions des goûts communs là-dessus. Il y avait beaucoup de livres qu'on lisait ensemble. Au fond, la liste des livres que je donne comme les ayant lus, moi, dans la force de l'âge. Souvent, un volume nous servait à tous les deux et nous en parlions beaucoup ensemble. Oui, beaucoup. Certains personnages romanesques ou vrais nous servaient de référence. Oui, c'était très intégré à notre vie, tout ce que nous lisions. Oui, il faut le dire parce que ça donne un caractère de plus à la lecture. Qu'un livre était à nous deux, à ce moment-là. Et quand vous avez été au camp de prisonniers, là je pense que c'était difficile d'avoir des livres. J'en ai eu quelques-uns, des livres qu'un prisonnier avait emportés dans son paquetage, un ou deux qui me sont venus des Allemands d'en bas, pratiquement peu de choses. Mais j'ai eu Sein und Zeit, que j'ai demandé, que j'ai eu. Ça, ça n'était pas de la lecture, c'était du travail. Il faudrait distinguer les livres qui étaient pour vous des livres de travail, Heidegger, Husserl, par exemple. Vous savez, c'est très difficile de distinguer le travail de la lecture. Est-ce que Husserl, Heidegger ont été du travail ou une lecture un peu plus systématique que les autres ? C'est bien difficile à dire. Et est-ce que la lecture faite par plaisir ne rentrait pas dans une espèce de vaste travail qui était d'assimiler le monde ? À plus tard, oui. Quand j'en ai eu besoin pour écrire mes livres. Mais quand j'avais écrit La Nausée, je n'avais eu besoin de quasiment aucun livre, ni pour les nouvelles. Et quand vous êtes revenu à Paris, pendant la guerre et immédiatement après, qu'était-ce que lire ? Déjà avant la guerre, vous aviez commencé à faire quelques critiques. Oui. Donc il y avait là une lecture dans une perspective un peu neuve. Oui. Vous avez critiqué qui avant-guerre ? Mauriac ? Dos Passos, surtout. Et sur Brice Parrain, vous avez bien écrit sur Brice Parrain. Oui, pendant la guerre. Qu'est-ce qu'on lisait pendant l'occupation ? Je sais qu'on a lu Moby Dick à ce moment-là, mais en principe, on n'avait plus de livres américains. Plus de livres américains, plus de livres anglais, plus de livres russes. Alors qu'est-ce qu'on lisait ? On lisait français. Il ne paraissait pas grand-chose. On lisait des choses qu'on n'avait pas lues ou on relisait. On ne lisait pas de nouveautés, c'est ça. On lisait pas mal quand même. Moi, je crois que c'est à cette époque-là que personnellement j'ai lu, je ne sais pas si vous l'avez lu aussi, « Toutes les mille et une nuits » dans l'édition du docteur Mardrus. Oui, on lisait l'intemporel, on lisait du 19e siècle, du Zola, je l'ai relu à ce moment-là. Et après la guerre, il y a eu un livre important pour moi pendant la guerre, c'était l'histoire de la révolution de Jaurès. Et après la guerre, il y a eu un déferlement de littérature américaine, anglaise. On a découvert alors une autre forme de roman d'aventure et des tas de livres qui nous ont révélé ce qu'avait été la guerre de l'autre côté de notre rideau de nuit. Pour vous, c'était plus intéressant que pour moi. Pourquoi ? Parce que... je ne sais pas. J'en lisais, bien sûr, mais je n'avais pas d'expérience pouvant me servir de point de départ pour une lecture de ce genre. Est-ce que vous n'avez pas lu un peu moins à partir de 45 du fait que vous avez beaucoup écrit, que vous vous êtes engagé plus ou moins dans des bagarres politiques ? Oui, mais je n'avais rien d'autre à faire. Avant, j'avais le lycée, c'est vers cette époque-là que je me suis composé une bibliothèque. J'y prenais des livres, je les lisais, je les relisais. Vous l'aviez installé dans l'appartement de votre mère où vous viviez. Il y avait un temps où vous n'aviez pas un livre. Quand on était à l'hôtel de la Louisiane, quelqu'un est venu vous y voir et avait été sidéré, il avait dit « mais vous n'avez pas de livre ». Vous aviez dit « non, je lis, mais je ne possède pas de livre ». Et au contraire, à partir du moment où vous avez habité rue Bonaparte, vous avez constitué une bibliothèque. Oui, c'était par amour des livres, par désir de les toucher, de les regarder. J'achetais des livres rue Bonaparte et aussi rue Mazarine. Il y a énormément de librairies dans tout ce quartier. J'achetais des éditions complètes. Vous aviez l'édition complète de Colette, oui, et aussi les œuvres complètes de Proust, oui. À partir du moment où je me suis installé chez ma mère, j'ai consenti à posséder certaines choses, comme par exemple une bibliothèque. Le fait de ne pas avoir de livres avant répondait à une volonté bien arrêtée. Je ne voulais rien posséder. Et je suis resté comme ça jusqu'à 40 ans. Il faut dire que les conditions matérielles s'y prêtaient très peu, puisqu'on était tout le temps à l'hôtel. Oui, mais j'aurais pu si j'avais voulu. Non, je ne voulais rien posséder. Et je ne possédais rien. Ni au Havre, ni à Lens. Et puis en 45, j'ai transformé ma vie sur certains points. Oui, vous avez pris un secrétaire, vous avez été plus installé que vous ne l'aviez été avant. C'était un peu la force des circonstances. C'était parce que ma mère, après la mort de mon beau-père, voulait que j'habite chez elle. Oui, je sais. Bon, alors, pour en revenir à la lecture, est-ce que vous avez lu autant après 45 qu'avant et avez-vous lu les mêmes choses? Il me semble, je me trompe peut-être, que vous avez fait moins de lectures gratuites, que vous avez lu moins de romans. Moins de romans. Il y a des romans qui ont été publiés et qui étaient bons et que je n'ai pas lus. J'ai surtout lu des ouvrages historiques. Et quand est-ce que vous avez commencé à lire énormément d'ouvrages sur la Révolution française et même à acheter des volumes de mémoire sur la Révolution française? C'est vers 52, il me semble. Oui, c'est vers 50, 52. Et c'était dans la perspective déjà de la critique de la raison dialectique. Oui et non. À cette époque, j'avais envie de faire encore de la philosophie, mais ça restait vague. Une envie forte, mais des lectures vagues. Et puis des notes sur mon cahier. Mais vous lisiez d'une manière très systématique, et des ouvrages quelquefois assez ingrats. Vous lisiez des ouvrages sur l'emblavement des terres, sur la réforme agraire en Angleterre, surtout des choses sur l'histoire de France, beaucoup, beaucoup. Essentiellement, c'était l'histoire de la Révolution et le 19e siècle, beaucoup d'histoire économique, beaucoup d'histoire économique. C'était là des lectures documentaires dans un but qui n'était pas encore très précis, mais qui était quand même déjà indiqué. Les idées que je tirais de ces livres ou les connaissances qu'ils m'apportaient, je les écrivais dans mes cahiers de notes et de souvenirs. Vous avez lu le livre de Brodel sur la Méditerranée, et un livre que vous trouviez très important, c'était Les sans-culottes de Soboul. Et pour vos heures de délassement, vous continuiez à lire des romans policiers, des romans d'espionnage. Oui, surtout des romans d'espionnage. Il y a eu un temps où les romans d'espionnage sont apparus. Je les ai lus. Et puis des séries noires. Ça venait de naître, la série noire, et elle était bonne au début, la série noire de Duhamel. Après, c'est devenu beaucoup moins bon. C'est un peu épuisé. Non, je voudrais de nouveau vous demander... qu'est-ce que ça a été pour vous, la littérature, tout au cours de votre vie? Vous avez expliqué dans les mots ce que c'était pour vous pendant vos toutes premières années. Mais qu'est-ce que c'est devenu? Qu'est-ce que c'est pour vous aujourd'hui? La littérature, ça a d'abord été pour moi raconter. Raconter de belles histoires. Pourquoi étaient-elles belles? Parce qu'elles étaient bien racontées. Il y avait un début et une fin, il y avait des personnages à l'intérieur que je faisais exister par des mots. Dans cette idée simple, il y avait l'idée que raconter, ce n'était pas la même chose que raconter à un camarade ce que j'avais fait de ma journée précédente. Ça voulait dire autre chose, raconter. C'était créer avec des mots. Le mot était le moyen de raconter une histoire qui, par ailleurs, m'apparaissait comme indépendante des mots. Mais c'était le moyen de la raconter. La littérature était un récit fait avec des mots. Il était complet quand il y avait le début de l'aventure et qu'on la poursuivait jusqu'à la fin. Ça a duré jusqu'à ce que mes études de lycée m'aient fait constater qu'il y avait une autre littérature, puisqu'il y avait des tas de livres qui ne racontaient pas. À suivre.
Entretien avec Jean-Paul Sartre, août-septembre 1974, de Simone de Beauvoir. Lu par Samy Frey. Enregistré en public à l'occasion du Festival d'automne à Paris, du 24 septembre au 6 octobre 2001. Enregistré en public à l'École normale supérieure, les entretiens avec Jean-Paul Sartre sont publiés à la suite de « La cérémonie des adieux » de Simone de Beauvoir, dans la collection Folio. Prise de son Marcel Lebras. Mixage Noélie Louis-Marie. Réalisation Jean Couturier.
Écoutez France Culture.
Constitué de centaines de milliards de bactéries, levures ou autres virus, notre microbiote est logé dans nos intestins et interagit avec notre cerveau.
Marina Carrère d'Encausse.
Il a un rôle essentiel à jouer sur notre santé, d'où l'importance de bien l'entretenir, son déséquilibre pouvant être à l'origine de diverses maladies digestives, neurologiques ou mentales. Et pour les soigner, on peut le modifier et même greffer un microbiote de donneur. On en parlera dans Carnet de Santé avec le professeur Harry Sokol, gastro-entérologue.
Carnet de Santé, chaque samedi à midi sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Vous avez fait une grosse sieste cette année, non? Pas de problème, aucun souci. France Culture vous propose ses incontournables. Romans, séries, films, littérature pour enfants ou pour adultes, essais, découvertes scientifiques, bref, il y en aura pour tout le monde. Les incontournables de culture. Saison 2024, à offrir, à partager, à déguster. Sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Vous écoutez France Culture.
Bonjour le Book Club, bonjour Marie Herman et Anaïs Le Brinberry. Moi j'ai lu ce livre avec une avidité dingue, comme si je savais qu'il comblerait une espèce de vide, et j'ai regretté à chaque page qu'il n'ait pas existé il y a 20 ans.
France Culture, le Book Club, Zoé Spez.
Au menu de votre book club aujourd'hui, deux collectifs féministes qui voulaient donner aux parents, aux femmes, mais en fait à toute la société, des outils pour vivre, réfléchir à cette expérience individuelle, familiale et sociale qu'est la parentalité, une expérience